C'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve pour vous parler podcast de ceux que vous connaissez et surtout de ceux que vous ne connaissez peut-être pas. Et je pense que vous ne serez pas déçus.
Midi 1, maintenant, le rendez-vous des podcasts.
Je vous parlerai tout d'abord des Bureaux des Mystères, le rendez-vous podcast incontournable pour les fans de fantômes, apparitions, ovnis, énigmes et monstres en tout genre, signé Mathias et Charles.
L'ancien bloc Est fascine autant qu'il interroge, et c'est ce dont nous allons vous parler ce soir.
Je suis Mathias.
Je suis Charles.
Bienvenue dans le Bureau des Mystères.
Puis, on se mettra sur le même diabason que les ondes de sismique présentées par Julien Devorex, podcast qui tourne autour des enjeux d'un monde en constante mutation. Crise écologique, questions socio-économiques, bouleversements climatiques, questions existentielles, sismique est là pour vous expliquer, mais surtout pour vous remettre en question.
Mais ce qu'est le monde relève d'une nature qui semble échapper à la science.
Sinon, les enfants seront à l'honneur aussi aujourd'hui, notamment les tout-petits, avec un podcast qui leur est dédié, les histoires en musique racontées par Elodie Fondacci sur les plus belles musiques classiques, un émerveillement musical et poétique pour les enfants et ceux qui ont su le rester.
Vous êtes bien installés ? Alors, chut, plus de bruit, parce que l'histoire va commencer.
Midi 1, maintenant, le rendez-vous des podcasts.
Pour commencer, place à l'un de nos coups de cœur, si ce n'est le coup de cœur, le Bureau des Mystères en 48 épisodes. Mathias et Charles nous emmènent dans les tréfonds du monde paranormal, des compulsions spontanées en passant par les légendes urbaines ou les cas de hantise. Le Bureau des Mystères est devenu en quelque temps un classique des podcasts français du genre qu'on ne présente plus. Il faut dire que Charles et Mathias sont de véritables orateurs, conteurs et qui en un claquement de doigts nous emmènent dans leur monde où se mêlent parfois histoire paranormale et l'histoire avec un grand H, comme dans l'histoire de la Nostradamus bulgare Baba Vanga.
Le mystique s'invite souvent dans les récits que l'on a produits autour de l'Union soviétique. Le conflit qui l'opposera pendant des décennies aux États-Unis sera le vecteur d'avancées scientifiques majeures, mais également de quelques expériences dont la visée s'apparente davantage à de la communication. Entre une mystique bulgare contactée par les hauts dignitaires du régime communiste pour ses visions et une médium russe capable de déplacer des objets par la pensée, l'ancien bloc Est fascine autant qu'il interroge.
Le Bureau des Mystères, podcast dédié au paranormal et aux énigmes surnaturelles. Charles et Mathias nous emmènent au pays de tous les mystères, fantômes, ovnis, disparitions, cryptozoologie, monstres, mais aussi phénomènes étranges, comme dans cet épisode 5 de la saison 3, où les deux animateurs nous emmènent donc sur les traces de deux femmes extraordinaires d'Europe de l'Est, dont la mystique bulgare Baba Vanga, surnommée la Nostradamus des Balkans, et de ses incroyables prophéties. Reste encore pour l'heure une énigme.
Est-ce qu'on doit avoir peur ? Eh bien, j'ai envie de te dire, pour commencer, peut-être. Car Baba Vanga aurait vu juste à de multiples reprises dans le passé. Il se dit qu'elle aurait vu la chute de l'URSS déjà, mais aussi la catastrophe de Tchernobyl, la date de la mort de Staline, qu'elle aurait prédit les attaques du 11 septembre et les tensions en Corée du Nord, elle aurait même annoncé avant sa mort les victoires du joueur d'échecs bulgare Veselin Topalov, numéro 1 mondial de 2006 à 2009. En 2006 et en 2009.
Quatre saisons disponibles sur toutes les plateformes de podcast classiques et 48 épisodes, véritable anthologie du paranormal. C'est ça aussi le Bureau des Mystères, ce podcast devenu culte pour tous les férus de paranormal dont je fais partie. Alors si Mathias et Charles abordent les histoires paranormales connues, comme la fameuse histoire de la hantise au Stanley Hotel, et j'en passe, Charles et Mathias sont également passés maîtres dans les histoires paranormales moins connues, peu documentées, comme le cas de Nina Kulagina, une médium qui avait fait trembler l'URSS à l'époque pendant la guerre froide et dont l'authenticité des pouvoirs continue de faire débat.
Malheureusement, les films qui existent aujourd'hui sont de trop mauvaise qualité pour affirmer ou déterminer s'il y a eu une astuce que pourrait utiliser un magicien, par exemple. Selon l'historien Mike Dash, Nina Kulagina aurait été arrêtée plusieurs fois, attrapée en flagrant délit de triche par les autorités soviétiques elles-mêmes. Et elle aurait même utilisé plusieurs de ses astuces pour se faire de l'argent, pour se faire quelques milliers de roubles, si on en croit un article de Vladimir Lvov, encore une fois, dans la Pravda. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'elle ait été prise dans un engrenage de communication de l'Union soviétique pour servir soit de leurre, soit pour intimider les adversaires de l'ex-URSS.
Le Bureau des Mystères est un podcast donc qui raconte et qui analyse avec finesse et suspense une multitude d'histoires paranormales. Au fil du temps, Charles et Mathias ont créé à leur manière une véritable culture pop du paranormal avec en prime, et juste pour le plaisir, de nombreuses références cinématographiques à l'appui. On retiendra aussi les petites séances bonus spéciales Creepypasta et légendes urbaines dont les histoires, c'est sûr, vous resteront en tête pour longtemps, comme avec la fameuse histoire de Baba Vanga, un de notre...
En 1941, les troupes nazies entrent en Yougoslavie. Vangelia a 30 ans et ses mystérieux pouvoirs commencent à se manifester de manière plus puissante. Un cavalier lumineux lui apparaît en vision et lui révèle le sort de plusieurs hommes de son visage. Ses prédictions s'avéreront exactes et Vangelia deviendra, à partir de ce moment-là, connu comme un oracle. Les 20 années qui suivent, Vanga continue de recevoir des visites d'êtres surnaturels qui lui font part du destin de certaines personnes et qui lui transmettent, parfois, des prophéties. À partir des années 60, Vanga devient célèbre à travers toute l'Europe de l'Est. La rumeur voudrait que Léonid Brejnev, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, soit régulièrement venu la voir en personne en Bulgarie. Ses liens avec l'URSS et son âge grandissant lui donneront le surnom de Baba Vanga, ce qui veut dire la vieille Vanga ou Mamie Vanga en russe. Nous sommes alors en pleine guerre froide et tout est bon à prendre pour obtenir l'avantage sur le camp adverse, même les projets les plus surprenants. Charles, tu nous as par exemple parlé à plusieurs reprises des expériences secrètes de la CIA, notamment des projets MKUltra et MKOpen.
Oui.
Et bien les Soviétiques, comme tu t'en doutes, ont lancé des recherches similaires de leur côté.
Évidemment.
Alors ils ont essayé, visiblement, de comprendre les mystérieux pouvoirs de Baba Vanga. Les autorités bulgares, alliées de l'URSS, ont créé en 1967 un institut de, je cite, « suggestologie », rien que pour elle. À partir de là, Vanga commence à effectuer des consultations de façon très encadrée. On lui aménage une résidence à Roupité, un village situé près de celui où elle vivait à Petrich jusqu'alors. Et tous les jours, la vieille dame est conduite en voiture dans cet endroit extrêmement isolé qui se trouve au cœur des montagnes de Bulgarie. Un personnel d'une dizaine de personnes lui est affecté et s'occupe d'organiser les consultations. Alors comme on peut s'en douter en voyant ce dispositif, les consultations sont évidemment devenues payantes. Il faut s'acquitter d'une taxe pour voir celle qu'on appelle désormais la Piti de Roupité. Une référence à la Piti, le nom qu'on donnait aux oracles du temple d'Apollon de Delphes dans l'Antiquité. Après la chute de l'URSS, Baba Vanga devient une véritable star. Jusqu'alors uniquement connue dans l'Union soviétique, elle commence à captiver la presse internationale. Le New York Times se rend même à Roupité en 1995 et rapporte qu'elle y est adorée comme une sainte par de nombreux disciples. Certains militent même pour qu'elle soit canonisée de son vivant.
Et après avoir frôlé le monde du paranormal avec le podcast Le Bureau des Mystères, on va revenir à la réalité, ou presque, dans quelques instants. Mais avant toute chose, on écoute Lady Gaga pour Bloody Mary, une chanson inspirée d'une légende urbaine américaine. Tant qu'à faire, on est dans le thème. Très bonne écoute à tous. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head.
Yeah. for Michelangelo to carve. He can't rewrite the aggro of my fury heart. I'll wait on mountaintops in Paris, Contrepas, Marie, Duterte. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head.
Lady Gaga, Bloody Mary, question de rester dans le thème du Bureau des Mystères podcast dont on vient de parler et disponible donc sur toutes les plateformes classiques de podcast. Et après donc avoir frôlé de très très près le monde du paranormal, on va revenir un peu à la réalité. Avec les ondes de Sismique, un podcast présenté par Julien Devorex en une heure, parfois un peu plus, ça dépend. Que l'on peut retrouver sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Avec Sismique, Julien Devorex appuie là où ça fait mal. Dans Sismique, la compréhension de notre monde est au centre du débat. Des enjeux de ce monde en perpétuelle mutation en passant par les défis socio-économiques ou encore les bouleversements culturels et technologiques jusqu'à la question des trous noirs. Julien Devorex nous pousse dans nos retranchements en remettant tout en question. Et même le réel n'y échappe pas.
Le générique de Sismique commence par une phrase prononcée par le personnage de Morpheus dans Matrix, qui nous dit, qui demande à Neo, qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Et je pense que c'est une bonne montée en matière pour poser un peu le cadre, comme je fais souvent. Donc, question simple pour nous chauffer un peu. Qu'est-ce que le réel et quelle est votre définition du réel?
Sismique, ce podcast ne pouvait pas trouver mieux comme titre car avec Julien Devorex, il est question de choc d'ondes qui ébranlent tout sur leur passage. D'ailleurs, dans l'épisode 196, baptisé « L'univers a-t-il un sens ?» dont vous venez d'écouter un extrait, le débat est ouvert avec David Elbaz, astrophysicien émérite qui nous parle du réel, des certitudes et des interrogations qui entourent cette thématique sur le monde et notre capacité à le comprendre. Qu'est-ce que le réel et quelle est notre définition du réel? Quel est le sens de l'univers? En fait, est-ce que le réel n'est peut-être qu'une forme d'illusion?
Et aujourd'hui, en sciences modernes, j'ai posé la question à des collègues qui travaillent en physique des particules, qui se rendent compte que la réalité leur échappe dans l'infiniment petit. Et à chaque fois, je leur demandais, est-ce que pour toi, ça, c'est la réalité? Ou est-ce que c'est autre chose? Et la réponse que je reçois la plupart du temps, c'est la réalité ne nous concerne plus.
Sismique, c'est aussi et surtout des penseurs, des chercheurs ou encore des astrophysiciens qui débattent et qui, en toute franchise, en toute honnêteté, proposent une discussion ouverte où les questions fusent, mais où ils reconnaissent aussi leurs limites.
Plus on avance, donc on a pu avoir cette illusion dans le processus scientifique de dire on va toucher au réel, mais plus on avance, plus on se rend compte de cette limite. Je voudrais qu'on parle de ces limites qu'on connaît, puisqu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais on sait qu'il y a des limites a priori infranchissables sur lesquelles on est condamné à toujours buter.
Dans Sismique, il est question d'envisager le monde comme un jeu dont il faut déchiffrer les règles pour faire des meilleurs choix pour l'avenir. Sismique nous invite à écouter, à questionner, à mettre en lien des réponses inattendues pour prendre du recul sur nos certitudes. Car dans Sismique, ce que l'on aime le moins, c'est justement ces fameuses certitudes, les réponses toutes faites. Alors ne vous étonnez pas de retrouver dans un seul et même épisode des liens entre Socrate, Montaigne et Albert Einstein. C'est un peu la spécialité de ce podcast.
Par rapport à un phénomène tout à fait historique, en deux mots, c'est que lorsque Albert Einstein a vu que l'espace était courbe et le temps pouvait se dilater, certains disent en fait que d'autres scientifiques l'ont vu avant lui, comme Poincaré, pour ça, et puis pour d'autres aspects, quelqu'un qui s'appelle Planck. Et il est tout à fait possible que la différence qu'il y a entre Einstein et les prédécesseurs d'Einstein, ce soit la réponse à la question que vous venez de poser. Qu'est-ce que le réel ? Parce que si vous vous demandez qu'il y a un réel absolu, que vous cherchez à comprendre ce réel absolu, à chaque fois que vous percevez une façon de nommer le réel, la réalité, ce qui vous entoure, vous pouvez succomber à la tentation de vous dire « ça, c'est la réalité » ou bien vous dire « non, ça, ce n'est que ce que moi, je crois, je vois, etc. » Et la réalité est encore plus loin et vous n'arrivez pas à ça. Et il semblerait que la différence entre les prédécesseurs d'Einstein et Einstein, c'est qu'Einstein a une vision proche de celle d'Emmanuel Kant, qui consiste à dire que cette réalité, c'est ce qu'on nomme, c'est ce qu'on est capable de visualiser, de nommer, et quelque part, ce que dit Einstein lorsqu'il formule l'espace et le temps à sa manière, à partir du moment où c'est efficace, ça traduit la réalité, ça devient la réalité. Et aujourd'hui, en sciences modernes, j'ai posé la question à des collègues qui travaillent en physique des particules, qui se rendent compte que la réalité leur échappe dans l'infiniment petit. Et à chaque fois, je leur demandais, est-ce que pour toi, ça, c'est la réalité ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Et la réponse que je reçois la plupart du temps, c'est la réalité ne nous concerne plus. On a complètement abandonné l'idée d'avoir l'espoir de commencer à pouvoir nommer une once de début de réalité. Ce dont on parle, c'est comment notre discours scientifique peut s'approcher au plus près du monde dans lequel nous vivons, de sorte à bien traduire de façon efficace la façon avec laquelle les choses se transforment. Mais ce qu'est le monde relève d'une nature qui semble échapper à la science.
Midi 1, M1, le rendez-vous des podcasts.
Et après avoir parlé astrophysique, métaphysique, j'en passe avec Sismique, podcast avec pas moins de 4 millions d'abonnés qui questionnent le sens de notre monde et de notre univers, à retrouver d'ailleurs sur toutes les plateformes de podcast, je vous propose tout de suite un peu de poésie, de fraîcheur, de légèreté, avec un podcast dédié aux contes et au monde de l'enfance. Ça s'appelle « Les histoires en musique », racontées par Elodie Fondacci, sur les plus belles musiques classiques, en 186 épisodes de maximum 10 minutes, la conteuse s'adresse aux tout-petits en proposant une véritable évasion poétique et musicale dans l'univers du conte.
Des histoires. Est-ce que je peux avoir une histoire, s'il te plaît?
Tu me racontes une histoire?
Encore une histoire? Vous avez été sage, vous êtes sûr? Bon, d'accord.
Les histoires racontées par Elodie Fondacci, spécialiste dans l'art du conte, dont elle en a fait son métier, notamment sur les ondes de la radio, avec une chronique consacrée le soir aux tout-petits, avec à chaque fois un conte différent. Cette fois-ci, dans Histoire en musique, Elodie Fondacci s'adonne au podcast. Et parmi tous ces contes qu'on appelle contes étiologiques, la conteuse a choisi notamment l'histoire d'un souverain cupide qui tyrannise son peuple et qui le paiera de sa vie.
Un matin, le roi, pour narguer ses sujets, arriva à la place publique et ordonna qu'on lui apportât un fût entier d'eau sucrée, fraîchement recueillie de la mer. Il se coucha sur un matelas en or et il proclama
« Je suis le roi des rois. Je suis riche et je suis viril. Regardez comme je suis robuste et beau, alors que vous êtes malingre et laid. Domestique, amenez-moi cette eau succulente de la mer. » qui est la mienne.
Pourquoi la mer est-elle salée ? Voilà le superbe titre de cet épisode des histoires en musique de Elodie Fondacci, qui met en place un véritable conte théâtral bercé par les plus belles musiques classiques. Alors, mis à part les contes dits classiques comme Tom Pouce ou encore Le Chaboté, Elodie Fondacci propose aux enfants des contes peut-être moins connus, comme celui que vous venez d'écouter et qui s'appelle donc « Pourquoi la mer est-elle salée ?». Car comme elle le dit elle-même, bien des peuples ont tenté de répondre à cette vaste question. Et c'est en poésie et avec beaucoup de talent que Elodie Fondacci donne sa réponse à elle.
Le vizir goûta l'eau et s'écria oh, « Cette eau n'est pas sucrée, elle est salée !» Tout le monde se précipita à la mer et chacun testa l'eau. Mais elle était bel et bien salée. Les aïeux s'accordent à dire que Dieu, pour punir ce roi avare et cupide, avait jeté un plein sac de sel dans l'océan. Lorsqu'il voulut lui rendre son goût sucré, il fut surpris et stupéfait. Il ne lui restait pas une pincée de sucre. Alors Dieu s'écria « Tant pis, la mer restera amère. » Et la mer resta salée.
Pourquoi la mer est-elle salée ? Tiré du podcast Histoire en musique, signé Elodie Fondacci, à retrouver sur les plateformes de podcasts classiques avec pas moins de 186 contes pour faire rêver les tout-petits le temps d'un podcast de quelques minutes. Et avant de nous quitter, je vous propose tout de suite un peu de poésie, tant qu'à faire, avec ce poète de la musique française, poète urbain pour lequel on craque, Stromae, qui nous régale encore une fois pour En danse façon remix. Merci d'avoir été avec nous sur Média pour le rendez-vous des podcasts. Je vous rappelle, eh bien c'est justement à retrouver en avant-première sur Média Podcast.
Qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, dit famine, dit tiers monde. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sur de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. C'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Et bien y'en a encore.